Quelques heures après l'arrestation à l'aéroport de Glasgow d'un homme présenté comme étant Xavier de Ligonnès, Patricia Martin, vous recevez la journaliste Anne-Sophie Martin, auteur du livre Le Disparu, paru aux éditions Ring. C'est un livre consacré donc justement à cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
Anne-Sophie Martin qui est spécialiste des affaires judiciaires, bonjour.
Bonjour.
C'est une affaire hors norme que cette affaire ? De par peut-être le nombre de victimes déjà, cette cavale qui, si c'est lui qu'on a arrêté, a duré 8 ans.
Oui, alors c'est une... Je crois que c'est la dernière grande énigme criminelle, l'affaire non résolue et qui a fait énormément parler d'elle. Je pense que c'est aussi une question de milieu, c'est-à-dire que c'est un milieu bourgeois, discret, très inséré.
Famille versaillaise, il est de Versailles
d'origine. Voilà, d'origine versaillaise, noble, Agnès dans une famille très bourgeoise. Et donc, c'est vrai que c'est pas dans ces milieux qu'on découvre des faits divers sordides. Hein. Et surtout, il y a la disparition de toute une famille, hein, 5 membres d'une même famille, sauf un.
La femme et des enfants.
Voilà, enfants. La femme, Agnès et les 4 enfants, sauf un membre de la famille. Donc ça devient très très rapidement le suspect numéro 1. Et encore, je dis rapidement, mais le problème, c'est qu'on va découvrir les corps, donc les victimes qu'on croyait parties à l'étranger, en tout cas disparues.
C'est ce qu'il avait fait croire par des courriers,
voilà,
etc.
Par des courriers, et puis par aussi une mise en scène de la maison, hein, qui semble avoir été le lieu d'un départ
volets fermés, rapide. C'est d'ailleurs ça qui, à un moment donné, a alerté les voisins.
Oui. Les volets fermés, lit des fait, plat ouvert, carton avec des souliers qu'on laisse pour la Croix-Rouge, etc. Enfin, tout est incroyablement préparé dans cette maison. Et si vous voulez, donc ça concourt, hein, cette espèce de trou, de presque 3 semaines de trou noir finalement dans l'affaire. Et puis, on retrouve les corps et après seulement, on retrouve le suspect numéro 1, c'est-à-dire le père de famille, qui n'est pas avec les corps et qui a disparu. Qui s'est évaporé le 10 avril 2011 de Nantes
mais
et le 15 de France.
C'est ça, le 15, on a encore voilà. Voilà. C'est la dernière image qu'on a de lui.
On va le suivre un petit peu, et justement, c'est une des autres, je dirais, dimensions hors normes, c'est que on va le suivre à travers la France comme s'il faisait une petite balade de Nantes jusque dans le Var. Et puis, là, on le suit parce qu'il y a des paiements en carte bleue, il y a des gens qui témoignent, qui l'ont reconnu, etc. Donc la police retrace tout son circuit. Et puis, il y a un type devant des caméras de surveillance d'un hôtel ou d'un distributeur de banque. Et puis, il part sur un parking avec un sac de représentants de commerce à pied. Et puis, plus rien. Donc, c'est comme s'il avait orchestré, en fait, sa disparition. Donc, évidemment, la police a cru tout de suite que c'était un suicide. Et en fait, c'était peut-être pas un suicide.
Il y a une lettre qu'il a envoyée à un ou une journaliste en juillet 2015, donc il n'y a pas si longtemps. C'est pas lui qui était signé de lui, qui disait « je suis toujours vivant ».
Oui.
Mais c'est pas lui.
Mais ça a été démontré, la graphologie, etc. On pense que c'est effectivement à l'AFP à Nantes. C'était peut-être quelqu'un qui voulait que ça bouge, en fait, qui voulait que ça avance. Hein, parce que depuis quand même toutes ces années, les amis des enfants, je me souviens notamment de toute la famille d'Agnès, etc., tous ceux qui les connaissaient, veulent savoir ce qui s'est passé. Oui. Donc, en fait, on a pensé que c'était un envoi... qui était d'un proche, en fait.
La famille d'Agnès, d'ailleurs, de sa femme, on l'a pas entendue.
Alors, la famille Audanger n'a jamais parlé, ne souhaitait pas se médiatiser, ni médiatiser une quelconque cause, juste être partie civile, vigilante, attentive à l'évolution de l'enquête, mais sans prendre publiquement la parole. Ce qui a d'ailleurs créé un autre aspect hors norme, c'est le déséquilibre, c'est-à-dire on ne parle que de lui.
Hors norme également, cette cavale qui a duré plus de 8 ans, 8 ans et demi, ça exige quelques forts moyens financiers. Comment a-t-il pu vivre, avec quels moyens? Et ça pose la question d'une éventuelle complicité.
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de... Je ne sais pas s'il faut parler de complicité, parce que je
alors,
sais
les moyens,
que...
les moyens pour commencer.
Donc, les moyens, ça dépend. Est-ce qu'on est Alfred Sirvin ou est-ce qu'on est Xavier Dupont de Ligonnès?
Apparemment, il avait déjà des dettes, donc il n'avait pas d'argent de côté.
Alors, on ne sait pas s'il n'avait pas accumulé une petite cagnotte déjà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est du tout dépensier. Quoique d'un milieu bourgeois, si vous voulez, on ne jetait pas du tout l'argent par les fenêtres. Et lui, en fait, ne vivait... Il était toujours en jean, chemise. et puis voilà, il n'avait pas de dépenses, il n'avait pas d'activité hors de prix, etc. Donc en fait, il n'a jamais vécu sur un train de vie très élevé.
Enfin, 8 ans, il faut vivre tout de même, il faut bien tirer de l'argent quelque
oui,
part.
Oui, mais c'est justement, je rebondis par rapport à ce que vous disiez sur la complicité, une aide, une amitié naissante, etc., ça peut s'être produit après. C'est pas forcément une complicité de quelqu'un qui l'aurait connu avant. Tout le monde a été placé sur écoute, tout l'entourage pendant des
mois. Il n'aurait pas pu avoir une double vie, par exemple. Enfin, c'est une hypothèse, hein, peut-être absurde,
toutes
mais une double vie, puisqu'on dit qu'il se serait marié ou enfin qu'il aurait vécu avec une femme en Écosse. Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir une double vie même? Alors, avant le meurtre?
Alors, ça semble pas tellement collé avec le personnage d'avant. Je pense que ce qui est sûr, c'est que si c'est lui l'auteur, hein, je vous rappelle que la présomption d'innocence existe et s'applique puisqu'il n'y a pas de preuves matérielles contre lui. Il y a juste un faisceau de présomption. Moi, je pense que, effectivement, il a pu être aidé, il a pu, voilà, mais c'est pas...
Vous, alors, vous n'avez jamais cru parce qu'on a parlé aussi de suicide. On s'est dit, mais il s'est flingué. Mmh. Et vous n'y avez jamais écrit.
Alors au début j'y croyais. Au début, moi je me disais quand j'ai commencé à enquêter pour France 2, j'ai cru que il s'était peut-être suicidé. Ça semblait assez vraisemblable. Et puis dans les familicides, c'est-à-dire quand toute une famille est décimée, en général l'auteur, qui est souvent le père de famille dans ces cas-là, dans 95-98% des cas se suicide.
Mais il y a des exceptions. Jean-Claude Roman est une autre exception.
Ouais, Jean-Claude Roman a essayé de se suicider, n'a pas réussi. Enfin, bon. Voilà, tandis que lui, il disparaissait dans la nature, si vous voulez. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi la différence de cette affaire par rapport aux autres.
On parlait de complicité. Un mot sur le rôle des monastères et autres abbayes. On a dit qu'il a pu, pendant quelque temps, se cacher dans les monastères, dans les abbayes. Il faut préciser que la famille, sa femme notamment, sont assez religieux.
Il y a des monastères qui ont été fouillés, non?
Oui, il y a des monastères fouillés. Puis il y a surtout le grand ancien, si je puis dire, Paul Touvier, le chef de la milice de Lyon, qui pendant plus de 20 ans, effectivement, avait été hébergé par des congrégations dans des monastères. Alors, la famille de Ligonnès, surtout la famille de Versailles, c'est-à-dire sa mère et sa sœur et ses sœurs, sont très, très religieuses, très catholiques, voire peut-être un peu même extrémistes. Et donc, si vous voulez, on a pu penser effectivement que s'il avait eu l'appui de sa famille, parce que c'était ça la connexion, hein, lui-même ne pratiquait plus déjà depuis, avait-il dit, 1995.
Mais sa femme, oui.
Mais sa femme, oui, mais à Nantes, à la paroisse Saint-Félix, dans leur quartier, etc. C'était un peu, même lui-même se moquait un peu d'elle, puisqu'il avait perdu la foi, disait-il. En tout cas, il n'était plus pratiquant, que c'était une grenouille de bénitier. Elle avait effectivement son groupe de prière, etc. Mais c'est pas elle qui aurait pu fournir les relais, si vous voulez. Donc, on a pensé qu'il pouvait être effectivement dans le sud. Moi, j'y avais pas du tout cru. Vous me posiez la question sur Roquebrune-sur-Argence, parce que aller se retirer dans un monastère à 3 km de là où on a disparu, c'est quand même un peu gros.
Alors, vous imaginiez quoi? Qu'il était en cavale? Où?
Alors moi, j'ai imaginé qu'il était parti loin, puisque évidemment, le risque d'être ici, et si cette arrestation est concluante et qu'il s'agit bien de lui, si vous voulez, à chaque moment, on vit avec des fourches codines, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que à tout moment, il y a un mandat d'arrêt international. Bon, ben voilà, il va être... S'il est chopé comme ça à un moment, il va être arrêté et c'est terminé.
Donc il faut partir quoi? Il faut tracer sa route en Amérique du Sud
ou... En Afrique, en Amérique du Sud, dans des endroits où on ne va pas, ou la police ne va pas à tout moment être susceptible de vous tomber dessus.
Une vie mystérieuse, mystère également autour des conditions de son arrestation. Question notamment sur le passeport avec une adresse à Limay en France, dans les Yvelines, où il y a une perquisition qui a duré de longues heures cette nuit. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il pu usurper l'identité d'un autre?
Ben, à partir du moment, si vous voulez, où quand il est parti en 2011, personne ne le cherchait, donc c'était assez facile, il pouvait même passer les frontières avec ses propres papiers. Là, maintenant, c'est compliqué parce que tout le monde le recherche. Même si on le recherche moins évidemment que quand il était l'homme le plus recherché de France, mais il est recherché, donc il faut forcément des faux papiers. Donc là, il semblerait qu'il s'agisse d'un vrai faux passeport, c'est-à-dire un passeport volé qu'il utiliserait en ayant changé la photo.
Et en ayant modifié son apparence à lui.
Et en ayant modifié son apparence. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est à sa portée, si je puis dire. Donc, ça serait pas très étonnant. Il y a des choses qui sont un tout petit peu, je trouve, questionnantes là, depuis hier soir. C'est que le procureur de Nantes déjà a demandé une grande prudence. Il est intervenu pour dire ça et non pas pour donner une information positive, ce qui est souvent le cas des procureurs. Et puis, Il y a des bruits animés, il y a des bruits animés, voilà. Il y a des voisins qui auraient dit, donc Guillaume Joao, ce voisin qu'ils connaissent, qui est beaucoup plus âgé.
Qui habite à cette adresse.
Qui habite à cette adresse et dont c'est le passeport, serait parti en Écosse hier, dans l'après-midi, et aurait épousé une femme écossaise.
Donc il y a une confusion entre le Guy de Limay et le Xavier de Ligonnès qui aurait été arrêté à Glasgow. Peut-il y avoir encore des doutes, donc, ce matin, sur l'identité réelle de l'homme qui a été arrêté hier soir?
Ben, je crois, tout le temps qu'on n'a pas confirmation, tout le temps que la police française qui est partie là-bas n'a pas confronté et fait un test ADN, et on doit rester prudent, c'est pas archi sûr, quoi.
Il vous a, l'affaire évidemment fascinante, l'homme très intelligent, on a dit qu'il avait un QI hors norme.
Alors lui-même le dit, parce qu'il y a des écrits, qu'ils s'en vantaient d'avoir un QI de 150 comme ses fils, enfin une partie de ses fils qui était très très intelligent. Je pense que, si vous voulez, certes, il n'a pas inventé des crimes parfaits, certes, les corps ont été retrouvés, pardon, mais pour l'instant, sa disparition était quand même une sacrée réussite au regard des forces d'enquête déployées pour le retrouver.
Et vous pensez qu'il peut, il va, si c'est lui, est-ce qu'il va parler?
Moi, je pense que oui. Enfin, pour moi, à partir du moment où c'est la fin de partie, la cavale a duré déjà très longtemps. Je vois pas ce qui pourrait retenir. Un droit au silence avec une telle attente sur cette affaire serait extrêmement surprenant.
Voilà. Dans l'attente d'une extradition, sachant qu'il peut aussi refuser cette extradition et que entre 60 jours et demain, il y a encore un délai qui peut durer quelques temps. Merci beaucoup, Anne-Sophie Martin, donc je rappelle votre livre Le Disparu aux éditions Ring, ce livre consacré à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Merci et bonne journée.